de l'attitude à premier soir, j'imagine que l'attitude négative peut être aidante, car souvent on n'a pas cette attitude qui porte à nous révéler à nous-mêmes, à nous découvrir. On peut comprendre qu'on parle beaucoup de présence méditative, cette qualité de présence qui est tout à fait importante, c'est la clé dans ce travail, mais ce n'est pas le but. Donc, cette attention consciente est le moyen. Le moyen de nous rencontrer, le moyen de réaliser comment nous pouvons être contraints de façon tout à fait optionnelle, facultative. Donc plus on va être en rencontre de nous-mêmes, plus on va pouvoir percevoir la réalité telle qu'elle est. Et j'imagine que vous avez pu percevoir la réalité aujourd'hui. Et je trouve très fascinant à chaque fois que je vais en retraite, après un premier jour de méditation, l'idée de la retraite et la réalité, ce qu'on y trouve, vraiment au-delà de nos évaluations, nos modes habituels de pensée, on a, en tout cas pour ma part, à chaque fois, une image, une idée de ce que va comporter la retraite. Et d'être en situation et puis de se rencontrer. Et il y a souvent, quelque part, un ajustement à avoir par rapport à ces deux dimensions. Est-ce que je suis seule ?
Mm-mm.
Pas vraiment, hein. Et c'est fascinant, justement, tous les fantasmes, toutes les créations de l'esprit. Parce que c'est ça, les fantasmes, les créations de l'esprit, tous les ajouts, toutes ces notions d'idéal, comme si... quand on va venir ici, on va se rencontrer comme un être absolument pur de toutes les défauts qu'on pourra avoir ou les difficultés. Et tout à coup, ben non, on est nous-mêmes. Et oh combien heureux qu'on se rencontre soi-même. Je ne pense pas que vous voudriez rencontrer quelqu'un d'autre, votre voisin peut-être. Des fois, on a envie d'avoir un autre type de rencontre que celle qu'on connaît bien. Et il se peut qu'il y ait manifestement des fois des envies de ce type. Mais on se rend compte qu'il ne s'agit pas tant d'analyser ce qui se passe ou d'évaluer. Et là, l'attitude juste, elle est déjà tellement importante qu'une grande partie de notre temps se passe au niveau de l'analyse. Par exemple, de chercher la cause d'un ressenti. Tout à fait clairement, on va vouloir savoir pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Et dans cette attitude de proximité avec l'expérience, de demeurer au contact, comme on le fait ici, et dans ce contexte particulier, il y a vraiment un contexte qui nous aide, le silence, l'intériorité, la continuité de la pratique. Tout ceci ne va pas aller dans le sens de nourrir la réflexion. Mais un contact beaucoup plus franc, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, une attention non conceptuelle, comme on l'appelle. Alors c'est déjà énorme de passer de ce niveau conceptuel, c'est-à-dire de la réflexion, de l'idée, de tout ce qu'on rajoute au niveau des interprétations, à ce niveau beaucoup plus immédiat. Et un premier jour, c'est généralement là que nous sommes en friction, si vous voulez, ou en contradiction même avec nous-mêmes. Parce qu'on va bien sûr s'appuyer sur ce qu'on, sur ce qu'on a à disposition. Et ce qu'on a à disposition, généralement, en tout cas pour la plupart d'entre nous, c'est justement l'analyse, l'évaluation, le jugement, l'interprétation. On interprète la vie, on interprète un ressenti. Et ensuite, il est possible qu'on le juge, qu'on appose une idée, bien, pas bien, agréable, désagréable, ça l'est, c'est évident. Mais bien, pas bien est une valeur ajoutée, n'a rien à voir avec agréable et désagréable. Évident qu'il y a des expériences agréables et d'autres qui sont moins agréables. Et ça ne dit absolument rien. d'une bonne méditation. Mais nous rajoutons à ce moment-là la notion bonne ou pas bonne, bien, pas bien. Donc ça, c'est de l'ordre de l'interprétation, c'est de l'ordre du superflu dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc, si nous sommes intéressés à un changement intérieur, eh bien, il est tellement important de vraiment intégrer intuitivement cette compréhension qui va laisser explorer l'être que nous sommes. Il s'agit vraiment d'être au contact de cet être et non pas s'appuyer sur les idées que nous avons. Les idées seront là, il ne s'agit pas du tout de les éliminer. Elles seront là, les idées. Les pensées à notre sujet, les pensées au sujet des autres. Tout ce qu'on va avoir comme perception, parce que les perceptions sont là. Et puis, une seconde. Et déjà, il y a une construction. C'est extraordinaire. Combien ça va vite. Mais de percevoir ceci. Ce processus où on n'est plus en train de se leurrer. C'est-à-dire qu'on ne vit plus dans ce niveau de se rencontrer soi-même, de projeter sur autrui ce qu'on a naturellement vécu pour nous-mêmes, et d'être dans la confusion. Donc il s'agit bien d'un éclairage qui nous aide à nous libérer de notre confusion. C'est extraordinaire que de pouvoir se donner le temps, l'espace, de la rencontre pour ceci, ici ou ailleurs. Mais ici, il y a vraiment cet intérêt qui est porté. À ce niveau. Donc, espérer trouver le bonheur est une notion sous-jacente. Espérer trouver la liberté, oui, ça je peux vous l'assurer. À chaque rencontre, à chaque fois qu'on y voit clair, il y a un moment de liberté où on n'est plus soumis par rapport à ce qu'on ajoute, ce qu'on interprète. Tout l'enjeu de la méditation se situe là. Donc on encourage cette dimension d'être. Pour quelle raison, pour quel motif être plus libre? Plus libre, y voir clair. Et être vraiment plus libre avec les circonstances. Ce qui se trame à chaque instant en nous-mêmes, c'est là que se situe la transformation. Donc c'est évident qu'on a une envie, en tout cas pour ma part, c'est évident qu'on a une envie de transformation. On ne vient certainement pas pour rester le même ou la même. Je pense qu'on passerait notre temps ailleurs. Mais quand on s'engage, on peut se rendre compte au début, et en tout cas pour ma part c'est extraordinaire, cette notion du désir. La notion du désir de changement. Et que bien sûr qu'elle est là, comme je l'ai dit. Il y a un besoin de changement qui est souvent très fort, ou un désir de changement. Et l'attention, elle se fige à cet endroit. Combien de fois est-ce que vous avez évalué votre pratique, ou à un moment donné aujourd'hui même, c'est « Bon, est-ce que je change? Est-ce que ça change? Est-ce que ça va enfin cesser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Est-ce que je vais mieux? Est-ce que je... » C'est extraordinaire. Est-ce que c'est vrai? Ça s'est passé comme ça pour vous? Donc on évalue. Alors plus on va chercher à évaluer, plus on va se rendre compte que certainement au niveau de cette réalité, de ce que je décris, il y a de fortes chances que ça ne corresponde pas à mes attentes. Parce qu'il y a un idéal de perfection. Le désir de changement, bien sûr, qui va dans le sens du fantasme, de ce que j'ai décrit avant. Vous êtes d'accord? D'un idéal. Un idéal de perfection. Moi, parfaite, la méditation parfaite, la respiration parfaite, peu importe. La marche parfaite, la journée parfaite, le lieu parfait. Parfaitement imparfait. Mais ça, c'est extraordinaire de le percevoir. Parce que ça se passe ici et ça se passe ailleurs. Ça se passe à chaque rencontre.
Ça se passe dans nos relations intimes. Comment on voudrait que ce soit, comment on voudrait que l'autre soit, comment on voudrait. Donc c'est extraordinaire que de pouvoir se frotter à cette dimension-là qui me permet de vraiment percevoir, commencer à sentir et à être intimement relié, à pouvoir intégrer, parce qu'il s'agit de ça, c'est la présence et ensuite il y a l'intégration de toutes ces constructions. On les intègre, on perçoit, on éclaire. Et on voit combien la tendance de se fixer sur l'objectif, c'est-à-dire sur le résultat même, fait qu'on se fige, qu'il y a une contrainte, qu'il y a une absence de liberté, tout simplement. C'est la fixation, et vraiment le figement, la contrainte, la saisie, sur l'objectif, le résultat à atteindre, qui m'empêche l'éclosion de la totalité de mon être. Et la rencontre avec ce qui est. Donc, une attitude qui veille, qui prend soin, qui va vraiment éclore de cet espace et de percevoir la tendance à mesurer le fruit de la pratique, c'est-à-dire le fruit de la pratique, par rapport au résultat qu'on veut atteindre. On mesure le fruit de la pratique par rapport à l'obtention de cet objectif. Et dans cette situation-là, il y a beaucoup d'avoir. Il y a beaucoup d'ambition. Il y a énormément de saisie là-dedans. Il y a de l'attachement. Donc, qu'est-ce qui serait un désir? Parce que, comme je l'ai dit, un désir de changement, bien sûr qu'il faut qu'il y en ait. Sinon, on ne serait pas motivé à évoluer, à progresser, à chercher quelque chose qui va naturellement nous aider dans notre vie, que ce soit la méditation ou autre chose d'ailleurs. C'est beau signe qu'on ait envie d'évoluer, de changer. Il n'y a pas de figement au niveau de notre personne, ni au niveau de la vie. Donc une ouverture, une disponibilité, une disposition à la rencontre. Ô combien merveilleux! Donc, qu'est-ce qui change lorsque on a un désir véritable, mais qui se situe à pouvoir être disposé à accueillir tout simplement ce qui est là? Cette réalité de chaque instant qui, naturellement, éclore, émerge d'une manière ou d'une autre, mais pas forcément selon l'attente que j'ai de l'objectif à atteindre. Donc ça permet une multitude de possibilités, plutôt qu'une. Vous comprenez ce que je dis là? Ça a du sens? Donc on peut dire, bah, c'est une super belle idée, bien sûr que je le comprends. Mais toute la richesse d'être ici, dans cette situation, c'est qu'on le vit. On le savoure, on le goûte. Et on est dans un registre tout à fait spécifique pour goûter ça et approfondir cette compréhension au contact de l'être, notre être, qui nous sommes, ici et maintenant. Qu'est-ce qui va se mettre en place gentiment? Qu'est-ce qui va changer gentiment? C'est que nous commençons à donner de l'espace à ce qui est, à ce qui est. Ça, c'est un immense changement. Donc, ce désir n'est plus un type d'attachement particulier, basé dans la saisie, dans l'ambition. On peut dire, aujourd'hui, on utilise le terme d'ego, mais un désir d'être pleinement vie, d'être complet comme nous sommes, s'accueillir, accepter les conditions. Car ce sont des conditions. Rien ne nous définit véritablement. Ce sont des conditions qui émergent et qui passent. Les conditions, elles émergent et elles passent. Parfois, elles correspondent à nos attentes, parfois pas. C'est ça. Et il y a une disponibilité à pouvoir intégrer les deux. L'équilibre, l'espace suffisamment grand pour pouvoir accueillir les conditions comme elles sont. Progressivement, tranquillement. Donc ceci peut être extrêmement grossier comme ça peut être extrêmement subtil. Et c'est évident qu'au fil de la rencontre, du cheminement intérieur, au fil de la pratique, ça devient plus subtil. Mais il y a vraiment, quelque part, ces manifestations qui continuent d'émerger. Par rapport au progrès de la méditation, lui-même peut-être. Où on en est 10 ans après. Ou 30 ans après. Vive l'imperfection. Et je suis sérieuse quand je dis ça. De plus en plus. C'est extraordinaire. Ce moment, ce passage, lorsqu'il y a cette capacité de se sentir si vulnérable et de voir que dans cette vulnérabilité, percevoir qu'il y a non seulement du courage, mais une authenticité extraordinaire. Qu'on n'a plus besoin de faire semblant. Ça, c'est de la liberté. Donc oui, 30 ans plus tard, c'est certes plus subtil, mais ça va toucher vraiment à pouvoir aussi intégrer ce qu'on appelle les zones d'ombre, les difficultés, les perturbations, ce qu'on laisse de côté généralement. Pour atteindre notre idéal de perfection, c'est évident que tout ce qui est de l'ordre des perturbations, des tourments, eh bien, l'idée, c'est que, ah bon, on ne touche pas à ça. Donc là, la totalité, l'être, la totalité égale à la liberté. Donc il y a une ouverture. Vive l'imperfection, vive l'acceptation des échecs. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment été dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a eu simplement une idée qu'on s'est dit, bon ben voilà, j'arrive... Une respiration, deux respirations, 3, 4, voilà, je veux être là. Charles a dit demeurer au contact, continuité, c'est très important la continuité. Et puis voilà, pas que peut-être notre mental n'a cessé de gamberger, n'a cessé de se promener ici ou là. Et on se dit, waouh, oh, j'ai vraiment pas réussi aujourd'hui. Quel échec! Épouvantable, tout a recommencé. Puis en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et si on rit, on a vraiment ça en commun. C'est extraordinaire que de pouvoir se comprendre à ce niveau-là. Que je dis quelque chose et on vit les mêmes choses. Il y a une résonance. L'être humain est tellement semblable à ce niveau de la nature. Cette nature humaine. Pas au niveau, bien sûr, de notre histoire et où on vit, et quelle langue on parle, et tout ce dont on pourrait parler ici ensemble, qui naturellement serait très intéressant, il n'y a aucun doute, mais qui ne fait pas partie de ce contexte. Voilà pourquoi nous sommes en silence, car on cherche à découvrir cette nature, la nature humaine. Et cette nature humaine, elle est tellement semblable. Extraordinaire, l'empathie qui peut aussi se développer, la résonance. Pourquoi tant de conflits, d'incompréhension? Comme dit Pascal, le philosophe, il suffirait de s'asseoir en silence quelques instants dans une pièce. Et le monde cesserait la lutte. Ça implique vraiment qu'on peut découvrir quelque chose de profond. Et ce qu'on découvre de profond pour nous-mêmes, naturellement, ceci aura un impact immense sur notre manière de nous positionner en lien avec autrui. Donc, il me semble vraiment important de distinguer ces deux types de changements. Un désir de changement qui va en lien avec la découverte de notre nature fondamentale. Ceci, c'est une évidence. Sinon, ça n'a aucun sens d'être ici. Il y a un développement, il y a un processus pour aller à la découverte de cette totalité, de la rencontre de nous-mêmes, de pouvoir tout intégrer, les difficultés, comme les moments d'aise, de joie, de légèreté. Tout peut être acquis. Et cet autre type de changement, qui, moi, je l'appelle un changement imposé, qu'on s'impose, et qui provient de la volonté pure. Je vais obtenir parce que je le veux. Et malheureusement, ça ne va pas vraiment comme ça. Donc, ces deux types de changements, vous pouvez vraiment les distinguer et vous en rendre compte dans votre attitude, au sein de la pratique, au cœur de la rencontre, avec une respiration, d'une sensation physique corporelle, d'une pensée. Peu importe combien vous avez été absent aujourd'hui, l'intention c'est d'être dans l'accueil, la détente, l'ouverture, la réceptivité. Et cette attitude va vraiment vous aider à pouvoir laisser tomber la fixation sur le résultat. Peu importe. Alors on fait tout ce qu'on peut, bien sûr. On nourrit cette continuité, on s'aide, on essaye de nourrir la présence. Parce que c'est qu'en présence qu'on va vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Et puis, on fait plein de place. Mais vraiment, donner de la place pour ce qu'on appelle, nous, les défauts, les manques. Donc, ce type de désir qui est un désir bénéfique, c'est vraiment d'aller dans le sens de la nature de ce qu'on va découvrir. C'est bénéfique. Il y a dans cette attitude une qualité de soin, de vraiment aller nourrir cette présence bienveillante. Et j'en suis l'exemple même dans ce début de retraite, où ce soir je me sens vraiment mieux. Quel chant, j'espère que vous êtes content de pouvoir rester continuer. Et pour cause, il y a quelques années, je me serais imposée d'être là ce matin, d'être là, voilà, de faire. Non, c'est important, il faut faire, il faut être là. Enfin, quand même, tu t'es engagée vis-à-vis de ces gens. Et voilà, donc dans l'authenticité, dans cette capacité, je me suis dit, mais c'est pas possible. Autant prendre soin et de s'autoriser cette prise de soin. Bon, par chance, on est deux. Et j'avais bien sûr respectueusement demandé à mon compagnon de route et enseignant si c'était OK. Il a dit, mais bien sûr. Donc, c'est juste un exemple, mais qui est tellement vivant, présent. Parce que bien sûr que ça affecte. Ça affecte. Ce qui m'affecte moi, vous affecte, c'est il y a une interdépendance. Il y a un lien. Donc la nature d'un être va naturellement affecter la nature d'un groupe. Et de ne pas en parler peut-être, ça peut laisser émerger des non-dits. Et là, le fait de pouvoir même l'exprimer, il y a une aise tellement naturelle et c'est OK. Donc pour vous-même aussi, de prendre soin, ça implique, je veux dire, une attitude du soin qu'un jardinier peut favoriser pour la croissance de ses plantes dans son jardin. Dans ce sens-là, extrêmement terrien, concret, s'alimenter. De quelle manière on a vraiment la possibilité de s'alimenter. Et ça ne veut pas du tout dire de la résignation ou de la passivité. Là, c'est vraiment une qualité de s'accompagner et de pouvoir accueillir. Donc, on comprend bien que, quelle que soit cette attitude, il y a déjà énormément de choses qui sont en train de se passer en nous-mêmes. Il y a une foule de choses qui se passent, ici et maintenant, à chaque instant. Et c'est extraordinaire que le fantasme est figé sur vouloir ce qui n'est pas. Vouloir autre chose. Et c'est exactement là qu'on intervient. Et de le vouloir autre chose est une intervention qui est une imposition. Et ça ne prend pas en compte ce qui est. Donc ça nous fige. Donc ce type de désir bénéfique prend en compte ce qui est là, va vraiment nourrir et s'accompagner, et il y a un processus très, très manifeste, très naturel d'être en accord avec les choses comme elles sont. Et de là, il y a une évolution. On n'empêche rien. On n'empêche rien. Et on ne favorise rien non plus. Il y a juste cette disposition à pouvoir accueillir d'instant en instant ce qui est là. Avec une respiration, une sensation, une pensée, un son. Donc ça, c'est vraiment une qualité, on peut dire, d'accueil inconditionnel. Et le terme d'inconditionnel est très important. Parce que c'est sans condition, sans parti pris. Donc ça, bien sûr que ça demande de la pratique. C'est une évidence. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on va s'opposer, on va intervenir, on va naturellement vouloir une autre expérience, par habitude, par conditionnement, parce que, voilà, on évolue de cette manière-là. Mais petit à petit, on peut se rendre compte des constructions et puis aller dans ce sens. Vraiment poser les choses autrement. Donc on peut se poser la question, quel est mon rôle? Quel est mon rôle dans cette extraordinaire manifestation de vie, d'être au contact des conditions? Comment est-ce qu'on va décrire notre rôle? Eh bien, il y a mille manières de pouvoir, bien sûr, parler de ceci, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est le rôle, c'est nourrir la présence. Parce que comme ça, on y voit clair. Et puis, protéger. Vraiment protéger. Se prendre soin, c'est protéger soi-même de vouloir s'imposer un idéal de perfection. Donc, bien sûr, il y a mille manières à nouveau de pouvoir décrire le rôle ou la manière de s'engager. Mais c'est déjà énorme. Cette qualité de nourrir la présence à chaque instant, c'est ça l'intention, c'est ça l'engagement. Et puis, prendre soin vraiment de percevoir tous ces fantasmes, ces idéaux et protéger son esprit de tout ce qu'on peut appeler attente irréaliste. Dans le sens d'un idéal extraordinaire, mais qui ne correspond pas à la réalité. Attente veut dire à ce moment-là un espoir, mais figé dans un but particulier. Alors bien sûr qu'on est plein d'espoir, plein d'envie, mais Et quand c'est figé sur un résultat, il ne pourra rien se passer de réel, de vivant. On est à ce moment-là complètement dans des idées abstraites, des concepts, des pensées. Et ça n'a aucun rapport avec la réalité de ce qui est, tout simplement. Donc c'est de cette manière-là qu'on s'éloigne de soi-même. Et c'est très intéressant, parce que c'est exactement comme ceci qu'est un maintien à distance. On se dit, tiens, waouh, je ne me sens pas vraiment en moi-même. Il y a comme si j'étais un peu à côté, voilà. Pas vraiment dans mon être, incarné. Ben oui, c'est comme ça qu'on s'éloigne de soi. Qu'on se sent comme à distance. Puis ce sentiment d'être à distance, ben c'est pas vraiment agréable. Beaucoup moins agréable que de vivre quelque chose pleinement qui peut être insatisfaisant. Parce qu'il y a de la vie. Il y a de la vie là-dedans. Alors que ce maintien à distance, cet éloignement, pour surtout pas sentir, c'est totalement figé. C'est pas vivant. C'est très abstrait. Donc c'est pas satisfaisant, c'est pas nourrissant. Donc on se rapproche de soi-même. Et c'est évident qu'il va y avoir des allées-vies. On va naturellement être encouragé à découvrir et tranquillement aussi prendre en compte les résistances, quelle que soit leur forme. Elles font partie. Et c'est extraordinaire parce que c'est au contact de ces résistances qu'on gagne en confiance. Et on commence à y voir clair. On se dit, waouh, il n'y a pas à figer un idéal de perfection. Tout peut être inclus. Donc, dans ce sens-là, on va avec le courant. C'est pas du tout figé, c'est mouvant, c'est vivant, c'est vibrant. Le Bouddha a choisi très souvent, comme vous savez, il parlait beaucoup en termes de métaphores. Il utilisait passablement les images. Et il a souvent choisi la métaphore de la rivière pour décrire le chemin. Entrer pleinement dans la vie, lui il le nommait spirituel, dans la vie qui naturellement est de cet ordre un peu plus élevé. Il dit, est comme entrer dans un courant d'eau qui transporte à l'océan. Tout ce qui nous est demandé est d'entrer dans la rivière. Vous y êtes dans la rivière. C'est génial, non? Tout ce qui est demandé est d'entrer dans la rivière et d'y demeurer. Ensuite, la présence, la confiance, la curiosité, la clarté vont nous aider à flotter dans cette rivière, c'est-à-dire à aller avec le courant. Les résistances, c'est lutter contre le courant. Et on lutte. Vous avez lutté aujourd'hui ?
Oui.
Et donc le Bouddha nous dit, à quoi bon lutter contre le courant ? On comprend ça. Vous vous rendez compte combien ça demande de résistance ? Mais c'est inutile, c'est un effort inutile. Et en même temps, on sait qu'on va s'épuiser. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Jusqu'à ce que, waouh, il y a un tout petit peu plus d'espace, plus de confiance. On a besoin de sécurité. Et c'est souvent ça qui se passe au fil d'une retraite. Le dernier jour d'une retraite, waouh, mais c'était génial! Et vraiment, c'est tellement important d'entendre ceci. C'est extraordinaire en quelques jours aussi, voilà.
va juste avec le courant, plutôt qu'à contre-courant.
On dit souvent, c'est génial parce que c'est le dernier jour.
Puis voilà, on a fini notre boulot. Mais il y a beaucoup plus que ça. Parce que beaucoup d'entre vous,
ben revenez. Donc, c'est devenu donc, qu'est-ce qui se passe? On vit beaucoup plus au contact ben, de la vie. Et du coup, il y a une ouverture à pouvoir être en accueil de la totalité de notre être. Et on sent la vie.
Donc, sans nous en rendre compte, très tranquillement, on va vraiment aller dans le sens du courant plutôt que lutter à contre-courant. Donc, qu'est-ce qui va aider ici? Pas trop d'efforts. Trop d'efforts n'est pas heureux. Même si on veut s'aider, c'est au contraire. Combien de fois avez-vous entendu de la détente, de la réceptivité, de la disponibilité? Trop d'efforts implique forcer.
Alors, le juste effort, bien sûr qu'il faut un engagement, parce que sinon, on va faire autre chose. Non, on sent bien qu'il y a toute une richesse.
Mais la découverte, ah ouais, juste assez pour être en contact, pas plus.
Et le trop d'effort, généralement, ça revient à dire, tiens, il y a de l'attachement à vouloir autre chose.
Voilà pourquoi on fait trop d'efforts. Donc, vous voyez combien ce cycle se manifeste et combien il se nourrit dans un sens approprié qui va dans le bon sens ou combien on peut prendre une attitude qui n'est pas heureuse pour nous, qui ne nous aide pas, tout simplement. Donc, ce sentiment d'espace, peu à peu, va naturellement émerger.
Waouh ! Une même expérience ! Et puis, il y a de l'espace !
Cet espace, ce sentiment d'espace, parce que l'espace, il est toujours là, il ne vient pas de ce qu'on cherche à obtenir. Il ne vient pas du tout de ce qu'on obtient. Il est ressenti justement quand on cesse de vouloir absolument acquérir. Ce sentiment d'espace provient de ce qu'on permet d'être. C'est-à-dire qu'il vient de l'accueil, de l'ouverture, de la disponibilité. Exactement l'inverse de ce qu'on croit. Donc il a aussi son rythme naturel. Très important ceci, le sentiment d'espace vient de ce qu'on accueille et non pas de ce qu'on acquiert. D'où cette dimension d'être, être plutôt qu'avoir, obtenir. Être au contact, être présent. Toute la méditation se passe dans ce niveau d'être, ici et maintenant. En présence. Alors, on peut le comprendre mentalement, conceptuellement, et puis c'est une toute autre chose, un tout autre niveau quand on commence à vivre au contact de cet être. Là, il y a le fruit. C'est là qu'il y a la nourriture. Donc, on se rend de plus en plus disponible. Et l'engagement, à ce moment-là, prend une toute autre forme. Pourquoi ? Parce qu'on ressent le bienfait. On est plus léger, plus joyeux. Waouh ! Plus au contact, plus dans cette dimension de se vivre dans notre totalité, avec tous qu'il y a. On permet aux choses d'être, aux conditions d'être comme elles sont. Donc elle est moins, pas du tout, ou moins dans cette dimension de vouloir obtenir, vouloir absolument se débarrasser d'eux, d'avoir des opinions surtout, ce qui se passe en nous-mêmes et autour de nous. On est vraiment beaucoup plus reliés. Et ça donne moi une envie de continuer, de vraiment continuer la pratique. De la nourrir, d'en prendre soin.
Et c'est là que le Bouddha a dit, pratiquez généreusement. Soyez généreux avec vous-même. Pratiquez de façon généreuse. Donnez-vous cette générosité. Et les moyens pour découvrir cette totalité. Et c'est merveilleux parce qu'on est là pour ça. Donc on va tomber dans le piège de vouloir obtenir et on en sortira. On tombe dans le piège et on en sort. On tombe dans le piège et on en sort. Et chaque fois qu'on en sort, on peut se réjouir. Car ça change vraiment notre être. Ici et ailleurs. Il y a aussi plus d'espace dans notre vie, plus d'ouverture, plus de capacité à affronter la vie qui, certes, présente certaines difficultés, et c'est peu dire. Donc, cette dimension d'avoir du courage de venir méditer est extrêmement importante. Et je crois que c'est vraiment heureux que à la fin d'une première journée, comme on sait, ces premières journées sont vraiment pas souvent faciles parce que c'est un tel contraste avec comme on vit, surtout dans une période de fête. C'était intensément relié au contact, généreux, je veux dire, je l'espère pour vous en tout cas, au niveau des amitiés et autres, puis tout à coup, waouh. Rien. Donc c'est d'autant plus, je trouve, un contraste. Et je le ressens, c'est clair. Nous aussi, on ressent ça. Si c'est ce que vous voulez, petit à petit, eh bien, il y a une possibilité de se mettre à niveau. Donc il y a un mode retraite, c'est clair. Il y a un mode retraite. Et progressivement on les nourrit des qualités intérieures et au contact naturellement des uns des autres. Chacun y met respectueusement sa part, détendu et intéressé. Donc fondamentalement on apprend de toute expérience, ici et maintenant. Tout est à découvrir. Une joie à découvrir toute chose dans la mesure de ses possibilités. Et si vous avez ressenti un peu d'ennui aujourd'hui, comme dit Trungpa, c'est absolument merveilleux. Il dit, votre méditation débutera véritablement lorsque vous rencontrerez l'ennui. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Et pourquoi il dit ceci? Il dit, quand on rencontre finalement l'ennui, c'est qu'on est au contact, plutôt que d'être désespérément en train de chercher les distractions qu'on a peut-être eues. Ou l'amélioration, ce dont on a parlé à profusion ce soir. Donc l'ennui est un indicateur absolument extraordinaire parce que c'est l'ennui qui peut nous amener et nous soutenir dans le sens de pouvoir trouver aussi cette dimension plus calme, plus tranquille. C'est moins agité. Et c'est OK. Vraiment, on a réapprendre l'ennui. Il y a une telle intensité dans notre vie, que c'est merveilleux, on se dit, oh là, tout va mal, je m'ennuie. Eh bien, pas du tout. Et même Jung dit ceci, il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Donc c'est exactement le sens de notre démarche, la quête de sens, le pourquoi nous sommes ici. Cette totalité n'a rien à voir avec la perfection. Pouvoir inclure absolument toute expérience, toute condition, sans devoir s'imposer quoi que ce soit. Ceci est l'enjeu, et ceci est le cadeau. Nous ne sommes pas parfaits, quelle surprise. Quelle joie de savoir que nous avons une autre aventure à vivre que celle de devoir atteindre une perfection, quelle que soit votre création par rapport à ceci. On a chacun la nôtre. Et de pouvoir se découvrir pleinement. Vive l'aventure. Et ça implique de vivre de manière un petit peu plus risquée, comme je l'ai dit. Prendre des risques, s'élargir, s'ouvrir. Mais on a beaucoup d'aide, c'est ça qui est extraordinaire. Beaucoup, beaucoup de qualités qui sont là pour nous aider. C'est ce qu'on va naturellement nourrir ces quelques jours. Nous allons avoir des sessions aussi de bienveillance, donc de metta, mais également de compassion. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une disposition à pouvoir sentir naturellement ce qui est douloureux en nous-mêmes ou autour de nous. Et qu'elle est là. Donc la dimension de la compassion est quelque chose qui est beaucoup plus palpable. Nourrie de metta, bien sûr, il y a cette dimension de bienveillance, mais la compassion va nous aider à pouvoir aller dans le sens justement d'accueillir, d'avoir une ouverture, de pouvoir être disposé à l'ouverture quand c'est pas facile en nous-mêmes. Donc on a vraiment tout plein de ressources et de s'appuyer et nourrir notre être de toutes ces ressources, toutes les manières qu'on a d'examiner, de prendre soin, d'y voir clair par rapport à comment on réagit, on va contre nature et retrouver ce sens, cette dimension de la nature vivante, de notre être. Et naturellement que ceci se situe dans notre vie intérieure, dans notre intériorité, puis ensuite peut se déployer au contact d'autrui. Il y a un petit texte de Alexandre Jolien. Avec lequel je vais terminer. Qui dit: un sage a dit que la vie émotionnelle était comme un fleuve. Nous nous épuisons à vouloir l'endiguer, le bloquer, quand il s'agit plutôt d'apprendre à nager. Le gros malentendu est de croire qu'une vie spirituelle nous épargne des émotions difficiles et congédie pour de bon les tiraillements, les tourments, le haut et le bas. Alors que même le Dalai Lama et les grands saints connaissent à leur façon de sacrés quarts d'heure. Cela me rassure d'une certaine manière. Quand une perturbation se pointe, je sais qu'elle ne va pas durer. Même si c'est un mauvais moment ou carrément un vilain jour. J'ai confiance et je connais la règle du jeu. Cette loi universelle qui veut que tout passe. Regardez passer les vagues tranquillement sans me laisser submerger par elles. Voici le cheminement. Dans la vie de chaque être humain, il y a des vagues. Dans l'esprit du Dalai Lama, dans celui de l'abbé Pierre, il y a eu des vagues. Une vie sans vagues n'est sans doute pas possible. Et le tout est peut-être d'apprendre à nager dans les vagues de l'âme. Alors, nageons.